À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonjour Laurent, bonjour Serge, bonjour aussi Maria Anne, ouais. Comme on découvrira tout à l'heure. Bonjour, qui n'est pas dans les studios, mais...
Non, mais presque.
Presque, presque. On vous expliquera tout ça. Donc, vous avez entendu l'indicatif, là, c'est les musiciens qui ont joué à l'indicatif et qui jouent notre indicatif étaient présents à notre festival, puisqu'il s'agit d'une partie de l'Orchestre des Dolomites, puisque c'était le groupe Calicanto que l'on a entendu. Alors on va revenir quand même sur cette première du festival Estrade de musique traditionnelle que les gens d'INIS, en collaboration avec le Conservatoire de Bourgoin notamment pour certaines journées, a organisé les 9, 10 et 11 octobre à Villefontaine, Maubec et Lille-la-Beau sur les territoires de la Capi, donc avec des ateliers sur le territoire de la Capi toujours, mais à Bourgoin-Jallieu. Alors c'était une première qui, avec comme toutes les premières, nous mettait un petit peu à la fois dans l'euphorie et dans l'inquiétude. Mais on peut dire que ça s'est très bien passé. Enfin, je te remercie, mais c'est effectivement ce qu'on entend.
Oui, je peux porter un jugement. Moi, j'ai pas du tout participé à l'organisation.
Ah, si, quand même, d'une certaine manière.
Mais c'était très bien.
Et on a été, c'est vrai, récompensé de nos efforts, mais évidemment pas uniquement grâce à nous, mais aussi déjà parce qu'il y a du public. Et quand il y a du public, c'est toujours mieux. Mieux pour nous, mieux pour les gens qui viennent se produire. Donc, on vous rappelle simplement que la première soirée, on avait le jeudi une ouverture. On avait d'abord la mairie de Bourgoin qui avait offert un apéritif d'accueil à la délégation du Nord, puisqu'il y avait une délégation du Nord et du Sud. La délégation du Sud arrivant plus tard, elle pouvait évidemment pas prendre l'apéritif. Donc c'est un geste bien sympathique, c'est aussi une reconnaissance de ce festival. On a eu donc à Villefontaine, il était normal de commencer par des locales, et on avait eu une chorale de femmes de Cantiamo, une chorale que je recommande à tous les auditeurs de Couleur FM, parce que c'est vraiment très bien ce qu'elles font. Elles font des chants traditionnels italiens, mais avec une maîtrise impressionnante, moi je trouve, pour des gens qui, en plus, pour des dames qui, la plupart, ne sont pas de langue italienne. Donc je trouve ça assez exceptionnel.
C'est bien.
Ensuite, on a eu deux groupes de la région, le Folk des Terres Froides, qui, comme son nom l'indique, se situe dans les Terres Froides. C'est une association qui a déjà un certain nombre d'années. Et ensuite, le groupe Les Migrants, qui est un groupe beaucoup plus jeune en date et en âge. Et ces deux groupes ont eu la bonne idée, alors qu'ils se connaissaient très très peu, qui sont dans des registres quand même assez différents. Ils ont eu la bonne idée de travailler quelques morceaux ensemble, ce qui a donné une chaleur à cette soirée bien, bien agréable. Il y a eu des moments comme ça, de rencontres tous les trois jours, qui ont été importantes. Moi, je retiens beaucoup de choses de cette première soirée. Je retiens notamment une interprétation de Caroline Sancho, la chanteuse de Les Migrants, qui a chanté Terra e Acqua pour faire plaisir aux gens de Rovigo qui étaient là, puisqu'il y avait une délégation de touristes de Rovigo et qui est un peu l'hymne de la région. Et j'ai trouvé son interprétation, et je suis pas le seul, même nos amis italiens l'ont trouvé exceptionnelle, cette interprétation. Voilà, le deuxième jour, on a eu... le deuxième jour était bien rempli, parce que le matin, au Conservatoire de Bourgoin, il y a eu des ateliers avec des profs du musique traditionnelle de Bourgoin, de la région. Tout ça se passait au Conservatoire de Bourgoin, avec un exposé, on va dire, une conférence de Roberto Tombesi, fondateur donc du groupe qu'on a entendu tout à l'heure, Calicanto, mais surtout aussi, là, pour ce qui concerne au festival de l'Orchestre populaire des Dolomites, avec François Francesco Ganassi, qui est le directeur artistique de ce groupe. Ils nous ont fait un exposé sur la musique traditionnelle du nord-est de l'Italie et sur la création de leur groupe, qui est de cet orchestre, qui était vraiment très intéressante, avec beaucoup de réactivité de la part des auditeurs présents. L'après-midi, il y avait une table ronde sur les forces et faiblesses des systèmes de transmission de musique traditionnelle en France et en Italie, orchestré là par le CMTRA et le conservatoire, avec toujours les mêmes intervenants, et destiné aux associations. Et il y avait bien sûr notre premier apéritif musical. Le soir, à Maubec, après une soirée un peu mouvementée pour les touristes qui étaient bloqués à Lyon, c'est toujours les impératifs de ce genre de manifestation.
Ils ont visité le CAR.
Ils ont visité Lyon avant, sous la pluie, mais ils ont beaucoup apprécié quand même. Un peu moins la pluie, mais beaucoup Lyon. Et donc, en première partie, on avait le groupe Adjam, qui faisait musique corse et méditerranée, et qui avait eu beaucoup d'invités ce jour-là, qui avaient participé à leur futur album. Là aussi, je le conseille aux gens de Couleur FM, un album qui va paraître dans 2 mois, je crois, et qui est encore sous forme de souscription. N'hésitez pas, parce que c'est vraiment de qualité. Ce sont un peu des esthètes, les gens d'Adjam. Et ils avaient invité notamment Brahim Msalen, qui est le frère du percussionniste, qui faisait partie de Carte de séjour. Et Jean-Philippe de Périté avait aussi invité beaucoup d'autres musiciens, dont la femme de leur ancien compagnon, qui malheureusement est décédé il y a peu de temps. Et puis le trio des amis italiens, Roberto Tombesi, Francesco Ganassi et Alessandro Tombesi. Ensuite, on a eu Grazia De Marchi, qui est très connue en milieu de chansons traditionnelles en Italie. Elle est venue avec son groupe Il Nuovo Canzoniere Veronese. C'est une interprète exceptionnelle.
C'était puissant.
Une artiste, quoi. Elle a aussi interprété Brel en italien, d'autres auteurs d'ailleurs. Mais vendredi, elle était là pour la musique traditionnelle de la région de Vérone, même si maintenant elle est retirée en Sardaigne. On a fini les soirées avec Francesca Trent, un jeune groupe, Émérite Miri, jeune groupe romain qui nous ont gratifié de chants et de musique traditionnelle du sud de l'Italie, tarentelle, pizziche et bien d'autres. Il y avait une certaine ambiance à Maubec, dont la salle était complètement bourrée, pleine, à craquer, ce qui était bien satisfaisant pour tout le monde. Le samedi a été la dernière étape, elle aussi très enrichissante, avec toujours au conservatoire des ateliers d'instruments et de chants. Il y a eu 70 stagiaires. C'est quand même énorme. En plusieurs ateliers. Et moi, je voudrais louer la collaboration avec le conservatoire, avec son directeur Florence Trosser, avec Christian Villeroux, avec Laurence Dupré, avec Fanny aussi. Lui, il y a tous ces gens avec qui on s'est remarquablement bien entendu. Et ces ateliers étaient dirigés par des musiciens du groupe, donc de l'Orchestre Populaire des Dolomites, et 70 stagiaires, instruments et chants en début d'après-midi, le matin en début d'après-midi, et ateliers danse pour la fin d'après-midi. C'est beaucoup. Et à la librairie Majelire, 2 volets aussi, le matin avec l'interview, plus qu'une interview, une table ronde avec Alice Cazon, qui est une jeune fille qui vient de faire j'aime pas employer le mot guide, parce que ça va au-delà d'un guide sur ces Dolomites qui sont chers à son cœur, et où elle va au-delà d'un simple guide, elle raconte des anecdotes, il y a beaucoup de culture aussi là-dedans. Et c'est un ouvrage.
Un guide anthropologique.
Oui, artistique. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment très intéressant. Et cet ouvrage s'appelle 101 cose da fare sulle Dolomiti, almeno una volta nella vita. Et je suis bien d'accord, c'est-à-dire 101 choses à faire sur les Dolomites au moins une fois dans sa vie. Allez-y dans les Dolomites. Et il y avait Tony Mazzetti, un personnage, Tony Mazzetti, qui est un naturaliste qui nous a gratifié de ses 2 bouquins, notamment le dernier, La Flora dei Colli Euganei, et où il passe en revue, puisqu'il écrit ses ouvrages, après avoir parcouru sa région à pied, sur la flore donc de ces collines euganéennes. Ensuite, là j'ai oublié de dire que là aussi il y a eu un apéritif musical, évidemment.
Et l'après-midi, il y avait la rencontre à Majolière sur les, la difficulté voilà. de l'édition était et voilà, très intéressante.
C'est l'autre volet donc, dont tu as peut-être assisté.
Bah, j'y suis allé.
Et ouais. des éditions, notamment dans, sur le terroir et éditions voilà, régionales. Voilà. Puisqu'il y avait le,
la fontaine de Sioé de,
voilà,
de Chambéry.
Et la Minéliane de Rovigo avec M. Cavrillani et M. Bourdon. Donc. Et le soir, l'île d'Abo, le Millennium, a eu la bonne idée avec une association de dégustation qui travaille toujours sur les vins français. Elle s'était mise au diapason en faisant déguster des vins italiens, un vin piémontais, on est dans l'actualité, un vin des Pouilles et puis aussi un autre vin de Toscane, précédé par un mini-concert de Roberto Tombesi, des danseurs de Andy Canteballi et de Claudia Ferronato au chant et de Andrea Petroni à la guitare, mais aussi il joue de son corps, si j'ose dire, sans jeu de mots, en faisant des sons à partir du coffre, des bras. C'est très intéressant. Et le soir, alors la grande soirée à l'île d'Abo avec Merle Rouge qui était composée de Gwenaëlle Pinault, de Jean Blanchard et de Laurence Dupré, qui sont très connus dans le monde de la musique traditionnelle, mais qui ont créé ce groupe à cette occasion et qui sont composés en fait de profs du conservatoire intervenants en musique traditionnelle et de Jean Blanchard qui lui aussi est intervenant à ce conservatoire. Excusez-moi parce que la salle de l'île d'Abo était un peu... La clim était un peu fraîche, mais l'ambiance ne l'était pas.
Oui, ça compensait.
Et voilà, ça compensait. Et ils ont créé ce groupe par défi un petit peu, et je crois qu'ils vont continuer parce qu'ils sont vraiment excellents. Excellents. Et Jean Blanchard, qui est aussi prof de culture populaire. Et enfin, donc, l'Orchestra Popolare delle Dolomiti, qui est vraiment, c'est un grand moment, quoi. C'est à la limite entre la musique traditionnelle et la musique classique.
Oui, mais c'est 25, 30,
une vingtaine, ouais. Au moins sur scène. C'est un groupe effectivement de 25, mais là, c'était une vingtaine. Et qui ont travaillé sur un manuscrit retrouvé au cœur des Dolomites, dans des fermes. Et après, sur plusieurs manuscrits d'ailleurs, ce groupe regroupe 7 groupes de 4 régions différentes qui ont adhéré au projet. Et les derniers manuscrits retrouvés sont d'ailleurs intéressants parce qu'ils ont fait un voyage aux États-Unis dans le New Jersey. Et il y a des annotations, c'est des manuscrits qui datent de plus d'un siècle, qui n'étaient plus joués du tout. Et il y a des annotations en anglais, et c'est pour ça qu'on retrouve des influences un petit peu américaines, voire irlandaises. Voilà. Et ensuite, tout ça s'est terminé par un bal, à différentes danses des différents pays, et avec un monde fou, quoi, là encore une fois, ce qui est vraiment très satisfaisant. Et on nous a encouragé de faire un deuxième festival, pas l'année prochaine, tous les 2 ans si possible, parce que ça fait beaucoup, c'est très lourd à organiser.
Mais une fois ici, une fois à Rovigo, donc tous les 2 ans.
Peut-être dans un troisième pays, on ne sait pas. Et bien Couleur FM, je pense, adhérera au projet. Couleur FM
97.1.
Voilà, très bien, monsieur Serre. Voilà, on va illustrer d'une chanson. C'était dur à choisir dans tous ces groupes, mais on a choisi, sans que ça soit péjoratif, notre ami Grazia, l'ancienne, mais une ancienne qui a une pêche d'enfer, hein, tu as vu. Et là, on va l'entendre dans Sento il fisco del vapore, qui est une chanson traditionnelle italienne, archi connue, et qui était probablement inspirée par l'expédition italienne en Albanie en 1914. Et elle avait été pour la première fois chantée au moins sur CD par par Giovanna Daffini, qui a beaucoup travaillé sur le travail des rizières notamment. Donc, Grazia De Marchi, Sento il fischio del vapore.
Amore che il va via e che il va via e l'è partito per l'Albania, chissà quando ritornerà. E l'è partito per l'Albania, chissà quando ritornerà. Tornerà sta
spada insanguinata, insanguinata. E se mi trova già maritata, Dio che pena, oi che dolor. E se mi trova già maritata, Dio che pena, oi che dolor. Dio che pena, oi che dolor, che brutta bestia, ma è l'amore, che è l'amore. Starei piuttosto senza mangiare, ma l'amore la voglio far. Starei piuttosto senza mangiare, ma l'amore la voglio far. M'hanno chiuso in un convento, m'hanno tagliato i miei capelli, ed erano lunghi, ricci e belli, m'hanno tagliato le mie beltà, ed erano lunghi, ricci e belli, m'hanno tagliato le mie beltà. Senza mangiare, ma l'amore la voglio far. Starei piuttosto senza mangiare, ma l'amore la voglio far. Starei piuttosto senza mangiare, ma l'amore la voglio far.
Voilà, grazie di Marchi, il nuovo canzoniere veronese. Alors, on va passer maintenant la parole à notre invité, et en particulier à l'invité de Serge,
oui.
qui l'a rencontré.
Qui est sur la table, là.
Qui est sur la table,
enfin, juste pas sur le micro.
Et qui vient, je crois, de Pinerolo, si je ne me trompe pas, et oui. qui va donc nous parler, Marianna, des escartons. Sujet éminemment intéressant.
Très intéressant, surtout que peu de gens connaissent. Bonsoir, bonjour Marianna.
Bonjour. Bonjour à vous et à tous les radio-écouteurs. Bonjour.
Alors, nous sommes avec Marianna, que nous avons rencontrée au mois de juin 2014 lors de notre séjour d'immersion dans le Piémont. Marianna Bertolino est docteur en anthropologie culturelle depuis peu, depuis le mois d'avril. Elle travaille à l'université de Turin sur les changements démographiques dans les Alpes et a publié sa thèse où le titre est très joli, je trouve, je le dis en français. Et pourtant, ils vivent nouvelles pratiques de vie et d'habitat dans les Alpes occidentales. Donc ta spécialité, c'est les Alpes occidentales.
Oui.
Donc Marianna est aussi très active et très impliquée avec la région Piémont. Elle participe à un projet transfrontalier avec la Suisse sur la valorisation du patrimoine immatériel. Et c'est par ce biais qu'on l'a rencontrée. Elle est collaboratrice d'une association de Pragelato qui s'appelle la Valado. Tu peux nous en dire deux mots de la Valado ?
Oui, bien sûr. Donc la Valado, c'est une association... née aux années 60 du 19e siècle et pour la sauvegarde de la langue minoritaire qui on parle dans nos vallées, qui est l'occitan, oui. Le provençal alpine en c'est particulier. Ça. Donc, elle travaille sur les enregistrations de cette parlée qui sont très différentes. On va des vallées Chisone à la vallée Pellicè, à la vallée Germanasque, aussi à la vallée de Susa. Et aujourd'hui, elle est composée par plusieurs jeunes qui s'occupent aussi de valoriser et de sauvegarder tout le patrimoine local, aussi par les fortifications qui sont très importantes dans nos vallées, les fortifications historiques, mais aussi les coutumes. Et aussi l'énogastronomie.
Donc, on va situer l'endroit où se trouve la Valado et le Val Chisone. En gros, le Val Chisone, c'est la vallée qui part de Sestrières et qui descend dans la plaine du Pô. Donc c'est parallèle à la route qu'on connaît bien, nous, quand on va en Italie, qui est la route, l'autoroute du Fréjus.
Oui.
Donc on va parler des escartons. Alors c'est quelque chose qui est peu connu, bien que ce soit un phénomène très intéressant. Il est ancien, mais il réserve une certaine résonance avec l'actualité. Il y a eu un référendum en Écosse, peu de temps, la Catalogne qui voulait devenir indépendante. Il y a un peu de ces eaux-là. Donc, Mariana, je vais essayer de traduire d'une phrase ce que sont les escartons et tu corriges si nécessaire. Donc, les escartons, ce sont des villages autour de Briançon en France et en Italie qui ont négocié un système d'autogestion avec leurs autorités de tutelle de l'époque.
C'est parfait.
C'est parfait, merci.
Ouais.
Donc j'ai pris des termes volontairement synthétiques pour te laisser développer.
D'accord.
Alors, on va essayer de suivre un plan à peu près logique. D'abord, précise l'endroit où se trouvent les escartons.
Oui, donc la région alpine, c'est une région transfrontalière par nature. Et la région alpine identifiée historiquement comme escarton était située dans les Alpes côtières entre le col du Mont-Cenis et le col du Mont-Genèvre, dans un triangle formé approximativement par les villes de Grenoble et Gap en France et par la ville de Turin en Italie. Elle faisait partie donc du Dauphiné et elle était constituée par 5 escartons. Les escartons de Briançon et du Queyras, aujourd'hui dans le département des Hautes-Alpes en France, et par les escartons d'Ulse, de Pragelato au Val Clusaz, et du Château Dauphin, aujourd'hui dans le Piémont, en Italie.
Alors, Château Dauphin, ouais. Une précision, Château Dauphin, ça n'a rien à voir avec Mont Dauphin à côté de Guies, qui est bien connu ici. Château
ouais.
Dauphin, c'est au pied du col Laniel, côté Italie.
Oui, c'est en vallée Varaita.
Voilà.
Dans une vallée de Coni.
Et donc, qui est une des vallées occitanes, Varaita.
Oui, oui, oui. Pour ce qui concerne le nombre de communautés impliquées dans l'escarton, on voit que l'escarton de Briançon était formé de 12 communautés, celui du Queyras de 7, celui d'Ulse de 22, celui de Pragelato de 6 et celui du Château d'Offrand de 4.
Donc ce que tu appelles communauté, on peut dire que c'est des villages actuellement?
Oui, village, mais on doit penser le village des Alpes comme un ensemble très vaste de bourgades.
Voilà, c'est
okay.
Ça. Un chef-lieu de village et beaucoup de hameaux ou de fermes isolées.
Oui, plus petit, oui. Et on doit aussi souligner que, bien que cette région montagnarde possède plusieurs sommets dépassant 3000 mètres d'altitude et soit caractérisée par des conditions de vie que l'altitude et la durée de l'hiver ont rendu plus difficiles, elle a assisté dès la période pré-romaine au développement d'établissements même importants de populations de souche celto-ligurien. La présence donc de ces villages stables, en même temps que la disponibilité d'écoles accessibles, notamment le Mont-Cenis et le Mont-Genèvre déjà nommés, a permis donc des contacts fréquents entre les populations locales.
Alors, à l'époque des escartons, on va y venir maintenant, tu vas nous dire quand ils sont nés, on va dire qu'il y avait en gros le duché de Savoie et le duché du Dauphiné.
Oui.
Alors, sont nés quand?
Royaume de Bourgogne, en fait. C'était,
comment?
À l'époque, c'était le royaume de Bourgogne.
Ah si oui, mais là, mes capacités historiques ne vont pas jusque-là.
Alors, les escartons naquirent au Moyen-Âge. Après les Romains, les Cotiens et les Sarrasins, il fut la période du féodalisme. Et un certain nombre de familles nobles s'affirmèrent graduellement au fil des années dans ces vallées. Avant tout, les comtes d'Albon, qui étaient les dauphins de la ville de Vienne, aujourd'hui dans le département de l'Isère.
Voilà, Vienne en France. Hein.
Oui, Vienne en France. À côté de cette dynastie importante qui prit tenacement le dessus sur les autres, il mûrit une nouvelle expérience politique et administrative. Les escartons, donc en première démocratie des Alpes, comme quelqu'un l'appelait. Étymologiquement, le terme dérive du moyen français escarté, du latin esquartonare, aujourd'hui écarté, et indiquait la répartition en 4 parties égales, parce qu'à l'origine les escartons étaient 4, des taxes du Haut-Dauphin, ainsi que de toutes les charges et les bénéfices liés à la gestion du territoire. Il s'agissait donc d'une confédération et d'une sorte de gouvernement fédéraliste.
Donc l'escarton est venu, le terme escarton, et c'est les gens qui l'ont créé après, quoi, mais au départ...
Oui. Ils l'ont créé un an après la fondation des escartons. La reconnaissance officielle fut établie le 20 mai 1343 avec la signature de la Grande Charte des libertés briançonnaises, mais le nom dérive des assemblées, des réunions que les petites communautés faisaient pour se remplacer donc les impôts. On peut encore dire quelque chose, que cette expérience est très importante parce que naquit de l'exigence manifestée par la population même de sauvegarder ses intérêts et sa sécurité.
Donc c'est les seigneurs en quelque sorte qui ont abandonné leurs droits ou leurs privilèges pour laisser autonomes ces villages.
Oui. Ils ont abandonné les bénéfices féodales, donc le moyen de gouverner un territoire à l'ancien, avec un prince et avec des châtelains aussi, si la châtellenie fut en forme de gouverne local dans les escartons. Mais les escartons devient en cette période une confédération et une sorte de gouverne autonome par rapport au centre.
Au centre qui était
le duché, Dauphiné.
Le Dauphiné.
Oui.
Donc les villages, d'après ce que j'ai lu, ont payé une somme au départ.
Oui, donc la transaction... qui était connue comme la Grande Charte des libertés briançonnaises, comme on a déjà dit, reconnaissait aux habitants de 5 escartons des libertés fondamentales. Elle remplaçait une série d'impôts de redevances par une rente de 12 florins et d'une rente de 4000 ducats payés chaque année le jour de la Chandeleur, et donc les communautés se répartissaient la charge dans le cadre d'assemblées nommées, ça va sans dire, escartons. Les communautés se réunissaient en cette confédération aussi pour une plus grande défense contre les ennemis, en premier lieu la Savoie, et pour une mutuelle aide contre les difficultés climatiques. Chaque année, les chefs de famille des différents villages se réunissaient démocratiquement dans un conseil pour choisir et élire leurs représentants qui dirigeaient la communauté en accomplissant les différentes tâches administratives. On doit aussi souligner que le 30 mars 1349, le dauphin Humbert II, recensant héritier, entreprit la vie monastique et vendit ses propriétés au roi de France Félicite de Valois. Depuis lors, le blason du dauphin fut associé au lit de France.
Donc le roi de France, il n'a pas remis en cause la naissance des escartons.
Oui, donc...
Une fois qu'Umberto était mort et que lui a donné son territoire, c'est resté comme ça.
Ils sont assez français.
Voilà.
Ouais.
Ah oui. Donc, vas-y.
Ouais. Jusqu'à le traité d'Utrecht.
Voilà, j'allais y venir. Donc ça a commencé en 1343 et ça a fini quand?
1713.
Donc ça a fait 400 ans, quoi, en gros.
Oui, à peu près.
Moi, ça m'a toujours plu, ça, de voir cet îlot de démocratie pendant 400 ans, c'est pas rien.
C'est une longue période,
Milieu du féodalisme. Je trouve que c'est ça qui m'a toujours plu là-dedans.
Comme quoi.
Donc, comment ça s'est terminé, les escartons?
Donc, la vie séculaire des escartons fut mise en discussion par la guerre de succession espagnole à cheval des siècles, comme on a déjà dit, 17e et 18e. En effet, le duc Vittorio Amedeo II de Savoie suivit une politique d'opposition à la France et ses troupes s'affrontèrent à celles de Louis XIV. La guerre impliqua le territoire tout entier jusqu'à Turin, qui, assiégé par les Français, fut sécuré par le prince Eugenio di Savoia, qui commandait les troupes autrichiennes. En 1713, donc, grâce au traité de paix signé à Utrecht, L'unité, l'homogénéité, la coopération séculaire des escartons furent brisées, car Ulz, Pragelato et Casteldelfino furent cédés à Vittorio Medeo II, qui se décora du titre du roi, avant de Sicile puis de Sardaigne. On suivit le principe de faire coïncider la frontière avec les Alpes et d'éviter ainsi des têtes de pont dangereuses vers la France ou vers la plaine du Pô. Pour ça, 32 communautés sur 51 furent assujettées au royaume de la famille de Savoie.
Alors, ça, c'est important, je trouve, parce que on voit la création de la frontière, là. La frontière sur la cime, quoi.
Oui, sur la signature orographique des Alpes, mais c'est pas juste, parce que les Alpes ont toujours uni les populations qui ont des coutumes, des moyens de vivre communes et non divisées.
J'ai lu dans, à propos du village de Bessan, qui est en Haute-Maurienne, après Modane, donc c'est un village qui est à 1800 mètres d'altitude, et les agriculteurs faisaient passer l'hiver leurs vaches dans la plaine. Mais ils n'allaient pas, en descendant la vallée de l'Arc vers Saint-Jean-de-Maurienne, ils passaient le col de l'Autaret à 3000 mètres, et ils allaient de l'autre côté, en Italie, vers Souza. Donc pour eux, à ce moment-là, la crête n'était pas une frontière.
Oui, il y avait beaucoup d'échanges, pas seulement économiques, mais surtout de pratiques culturelles. Oui. Et donc, ce partage fut vécu comme un traumatisme par la population des escartons, qui continua ces échanges de part et d'autre des Alpes. Sur la partie restée française, les anciens droits restèrent jusqu'à la Révolution. Sur la partie devenue savoyarde, ces droits furent maintenus, car une des conditions du traité était la sauvegarde des franchises et des traditions locales.
D'accord. Donc la Révolution, s'il y avait en vertu d'un principe de la Révolution, je ne sais pas c'est calé en histoire, le fait que les communes françaises perdent leur autonomie, est-ce que tu sais en vertu de quoi les révolutionnaires ont abrogé cette méthode de vie ?
Oui, c'est vrai. Donc ils ont perdu l'autonomie à nom d'une égalité.
Ah oui, d'accord.
C'est un paradoxe, mais c'est comme ça, ouais.
D'accord, oui, c'est vrai.
À nom d'un centre seul.
Oui, oui. La France est un pays très centralisateur.
Ouais.
Depuis la Révolution. Il y a un texte qui s'appelle La Grande Charte des Escartons. Donc, c'est pas un traité, puisqu'il n'y a que le duc du Dauphiné qui a signé, si j'ai bien vu. Et parle-nous un petit peu de ce document.
Oui, donc le document Grande Charte est considéré comme l'acte de naissance des escartons. Mais on doit dire que déjà dès 1265, les communautés obtinrent de nombreux droits auprès du Dauphin de Vienne, qui avait toujours démontré une gestion politique virtueuse. Il s'agissait par exemple de la gestion commune de l'eau et des pâturages. Ce processus aboutit donc à la plus fameuse transaction signée à Beauvoir sous la diocèse de Grenoble. Mais pourquoi? Je crois parce que le dauphin Humbert était oppressé de dettes, mais aussi parce qu'il voulait détruire complètement la petite noblesse féodale locale, à nom d'un seul prince souverain. Pour ça, ses prédécesseurs avaient déjà accordé des libertés, par exemple à l'exil en Vallée de Suse. Les libertés sont accordées en 1243. Mais Humbert II alla beaucoup au-delà en accordant presque la totalité des communautés de Briançonnais des libertés extrêmement larges, et en particulier des avantages économiques et fiscaux, en échange de l'argent sûr nécessaire pour payer ses dettes. Donc, le document est toujours conservé et exposé à la mairie de Briançon. La charte se compose de 38 articles. Si on regarde à elle aux articles 2 et 35, on voit que les habitants de ces communautés eurent le titre de francs bourgeoises, un statut intermédiaire entre celui de la noblesse et de la roture. Ils étaient donc libres et ils rendaient hommage à leur seigneur, le dauphin, en baisant son anneau sur le dos de la main et non au pouce comme les populaires.
Voilà, un signe extérieur là.
Ouais, c'est un signe extérieur, ouais. Mais des autres articles sont si intéressants parce qu'on lit par exemple de la liberté de circulation dans le territoire, du droit à la propriété privée, y compris pour les femmes, d'une participation populaire pour l'élection des représentantes, d'une gestion ciblée du territoire, et de la répartition des impôts. Si je peux, je vais vous lire quelques articles.
On peut prendre... Tu peux en lire un petit, oui.
Un article, ok. Voilà. Donc, je pense que c'est important le numéro 17 qui dit que le Briançonnais ont, dès aujourd'hui, le droit de construire des canaux pour arroser leurs terres, prendre de l'eau aux torrents et rivières sans savoir appayer le droit d'usage ni aux dauphins en berre, ni à ses héritiers ou successeurs. C'était donc en gestion libre des biens communs.
Voilà, c'est vrai que c'est important parce que cet article parle des canaux. Bon, ça pourrait paraître pas très important, mais c'est vrai, c'est la gestion du bien collectif et de l'eau.
Oui, ouais. De l'eau, mais aussi des forêts, par exemple.
On va faire une petite pause de chanson.
Oui.
Et on va écouter...
Alors, je crois que tu nous as choisi La Rivello par le groupe Lumagno. Alors, moi, j'avais une question... Est-ce que le Magno, Lumagno, veut dire quelque chose en piémontais ou en... Ou alors si c'est en dialecte, en occitan ou en... Est-ce que ça a une signification? Parce qu'on a ici un groupe qui s'appelle Lumagno. Et il s'appelait même Lumagno Terrible. Maintenant, ils ont... Et c'est... Parce qu'ici, chez nous, Lumagno, dans le patois... Qui est très peu diffusé dans notre région, hein, très très peu diffusé, et qui est à racine non pas occitane mais franco-provençale. Lumagno, oui. Ce sont les gars du coin, quoi, les hommes du coin, les habitants du coin, en patois de local, à racine donc franco-provençale, se dit donc Lumagno. Alors je ne sais pas si c'est la même racine, si ça veut dire autre chose, est-ce que tu le sais, non?
Oui, donc c'est la même racine parce que on parle de provençal alpine de Bragelato.
Donc on est dans la zone franco-provençale aussi là, oui.
Oui, tout à fait.
La même qui est à la limite après du Val d'Ost aussi, d'accord.
Ok, et oui, c'est la même signification.
D'accord. Alors on va l'écouter ce groupe.
Donc il est très intéressant cette formation.
Thank you.
On a un côté fanfare dans ce groupe, il me semble. Qu'est-ce que signifie l'arrivello?
Elle n'a pas entendu. Là,
qu'est-ce que signifie l'arrivello?
C'est le nom de l'enfant.
D'accord. D'accord. Bien.
Attends.
Allô?
Vas-y.
Tu nous entends?
Oui.
Voilà.
Voilà.
Bon, on avait peur de que la ligne soit effectivement coupée, puisque vous l'avez compris, on est en ligne téléphonique avec
Skype.
Avec Skype, voilà.
Alors, après, on a vu donc la naissance des escartons, la fin, la charte, l'organisation de la vie. Parle-nous un peu de la vie, justement, de part et d'autre de la montagne.
Oui, donc, on peut dire que la vie des sociétés de montagne des escartons a été basée sur une très grande part du travail collectif et d'usage des biens communs. Donc, on peut parler d'une économie solidaire, même de rituels et de célébrations similaires. Mais en tout cas, chaque escarton a eu ses propres particularités. Il n'est donc pas possible de généraliser aussi si on trouve des coutumes communes. Nos montagnes ont toujours été un immense réservoir de ressources plus ou moins pauvres que l'homme a appris à connaître, à valoriser, à exploiter pour survivre. Nove mesi d'hiver, tre mesi d'enfer, traduit 9 mois d'hiver et 3 mois d'enfer. Cette expression utilisée par nos ancêtres témoigne des difficultés de vie et de travail dans un milieu hostile comme celui des Alpes. Ces difficultés ont engendré chez les gens de ces vallées un instinct de survie fort et une grande capacité d'adaptation en les obligeant à inventer des métiers alternatifs à ceux traditionnels. Par conséquent, à côté des métiers bien définis comme celui de l'éleveur, de l'agriculteur, du boucheron ou du berger, on retrouve aussi des métiers parfois improbables. On doit nous souvenir, par exemple, du métier itinérant du maître. Dans son roman Les Misérables, Victor Hugo cite lui aussi la figure des maîtres du Keira. Le métier de maître de montagne jouait un rôle très important pour les communautés. Au XVIIIe siècle, le niveau d'éducation des hautes vallées était largement supérieur à celui du fond de vallée et de la plaine.
On trouve là un point commun avec la culture des Vaudois où les écoles étaient aussi très développées.
Oui, oui, oui.
Alors, est-ce que Couleur FM émettait sur 97.1 entre 1343 et 1712?
Non, mais Couleur FM est une des premières radios associatives quand même. Il faut quand même le souligner. Elle date de 1981, hein, Couleur FM.
Ah, d'accord.
Oui, oui, c'est une des premières radios. Les radios associatives sont nées en 1981 en français. C'est une des premières.
Très bien.
Ouais.
Mais ce n'est pas si ancien quand même que les escartons. Hein.
Parle-nous de l'organisation de la vie courante, parce qu'on a dit au départ donc, qu'il y avait une sorte de représentation pour organiser la vie dans la communauté. Comment ça se passait?
Donc la vie politique et administrative était réglementée à l'intérieur de chaque village avec l'élection annuelle d'un consul ou syndic et des officiers parmi les chefs de famille. À l'article 12 de la charte, nous lisons que ces derniers devaient jurer de bien servir et de rendre des comptes en fin d'année et que si un consul ou autre officier ne remplissait pas bien ses fonctions, il ne serait jamais réélu.
Mais c'est comme maintenant.
Ouais, c'est la même chose.
Pas tout à fait.
C'est pareil.
Surtout en Italie.
Faut pas dire surtout en Italie.
Non, non, faut perdre cette habitude.
Tu sais, la cime n'est pas une frontière. Hein.
Ah ouais. Donc, à côté de ces figures politiques, on retrouve le mancia ou massier, selon les escartons, une sorte de chef du hameau qui, encore aujourd'hui, est périodiquement élu dans chaque bourgade du village comme pragelato ou so dans la Valle Chisone, dans le respect de l'ancienne tradition. Chaque communauté pouvait nommer librement ses propres gardes-routes, gardes-forêt, gardes-campestres, gardes-troupeaux et gardes-canaux. Pour ce qui concerne la vie habituelle des habitants, ils sont très précieux les livres de raison manuscrits par quelques notaires locaux qui ont été écrits il y a longtemps et dans certains cas, ils reprennent des passages de documents beaucoup plus anciens. Ils relatent tous les faits les plus marquants du village ou de la famille de l'auteur, comme guerre, incendie, avalanche, construction, héritage. parfois sur plusieurs siècles, jusqu'aux les années 1900-1940.
Alors, qu'est-ce que c'est cette habitude de noter la vie courante? Tu peux préciser là, non? C'est des notaires qui notaient, enfin qui écrivaient ce qui se passait?
Oui, c'était non seulement payé par la communauté, parce qu'il y avait des notaires qui étaient en maître de droit.
D'accord.
Civil et pénal aussi. Mais il était quelque chose qui a un lien avec ce qu'on appelle les livres des âmes des églises. Donc, il était tradition écrire tous les faits remarquables d'une année.
D'accord.
Comme par exemple les avalanches, mais aussi les constructions ou les maisons qui ont été détruites dans une année.
D'accord.
Ils sont très précises, ouais.
C'est une mine pour les historiens, ça.
Oui.
On sait s'il y avait un but particulier à tout ça, non?
C'est
à titre d'archive ou c'est pour être utilisé?
Je crois que c'était à titre d'archive et aussi par une sorte de transmission
de la mémoire.
Mmh, oui.
D'accord.
Ben, ils ont réussi.
Oui, parce qu'ils sont conservés dans beaucoup de bibliothèques, je pense que oui. Et des autres importants témoignages sont les enquêtes du dauphin, connues sous le nom du registre qui le contenait, le probus, écrit avant la formation des escartons. Ils ont été conduits entre le 1250 et le 1265, où on voit le fonctionnaire, en ce cas, interroger les locales sur leurs normes et sur des aspects de la vie quotidienne. On apprend comme ça le nombre de faux familiales par amont, les nombres de fils et les terres et les bêtes possédées. Une particularité, c'est que les informateurs qui devaient parler étaient choisis par les habitants et non par les fonctionnaires, et que jamais une femme fut choisie.
Et jamais ?
Une femme fut choisie.
Ah, n'avait été choisie.
Ouais. Ah, oui, ça n'a pas beaucoup changé. Oui.
Il n'y avait pas des informatrices. Donc,
donc c'était une sorte de recensement, en quelque sorte.
Oui.
Alors, en préparant l'émission, là, je suis attaché à la justice, puisque la justice, c'était le Seigneur qui rendait la justice. Comment ça se passait?
Alors, la justice restait un privilège du dauphin, et elle était exercée par le bailli et le juge de Briançon. Puisqu'il continuait à exister la châtellenie conforme du gouvernement local, à l'article 28 de l'achat, on retrouve que ni le châtelain ni les officiers pouvaient faire justice tout seuls. Parce que quand on arrêtait quelqu'un, il devait en donner avis au bailli et au juge de Briançon. À l'article 31, on lit que les officiers du dauphin ou le châtelain qui imposaient une amende par jugement ne pouvaient rien exiger des habitants sans l'accord du juge Delphinat de bailage. En outre, les officiers ne pouvaient plus procéder à l'arrestation de quiconque briançonnait, et si les délinquants donnaient caution franche et sûre, il était libre. Seulement les crimes étaient exemptés de cette mesure.
Donc pour le crime, c'était toujours le dauphin.
Ouais.
D'accord.
C'est le dauphin et le juge de Briançon.
Voilà. Ouais, on retrouve en quelque sorte, on retrouve les niveaux des justices actuelles. Quoi, le tribunal en France, on a un tribunal de première instance et puis
aussi en Italie.
Voilà. Et puis la cour d'assises pour les crimes. Oui.
Ouais. Et quant aux communautés rurales, elles n'exerçaient que des pouvoirs de simple police. Il y avait la garde, comme on a déjà dit, qui surveillait sur les biens communs, mais pas non plus. Okay.
Donc, la justice, une grande partie de la justice était quand même rendue sur place. Il y avait la justice la plus simple pour les crimes qui étaient rendus donc par le juge de Briançon. Et comment ça se passait pour les armées? Parce que il y a bien l'obligation de défendre le territoire quand même.
Oui. Sur le plan des obligations militaires, dans la charte, on voit que les habitants des Escartons devaient participer à la défense du Dauphiné. Mais ils n'étaient plus obligés à garder les châteaux. C'était un ancien devoir féodal, ça. Pour le reste, les Briançonnais disposaient d'une large autonomie aussi s'il restait leur devoir, fournit 500 gendarmes. Et pour ça, le dauphin donnait 1000 fiorins afin que les communautés puissent acheter armes et poudre et pour avoir les soldats prêts à accompagner le pays dans ses tournées.
D'accord. Donc, il y avait quand même cette obligation de défendre le territoire, avec les armées du duc.
Oui.
On va faire une autre pause musicale.
Oui, alors on va écouter le groupe Canto Vivo dans une chanson qui est très connue, hein, dans le Piémont, qui s'appelle « Joli cœur ».
Oui.
Che parlava alla piemontese, o monsieur, basez-moi bien, o monsieur, basez-moi bien. Alla piana per sue man bianche, an gruppetas la tire, alamna lans le culigne, duaie l'erbe te figne. Due tre volte sala base, due tre volte sala base, e adesso che le viva same, bel galan me sposerai, sale l'on che mi pensava, sale l'on mi desiderava, per sposerme soliker. Da scuse mesoliche. Pensava, sale l'on chi desiderava, da spuse mesolica, da spuse mesolica.
J'allais en France trouver une Française qui parlait à la piémontaise, dit-il.
Là, c'est pas une Française qui parle à la piémontaise, c'est deux Français, là.
Voilà.
Tout à l'heure, on a parlé de la charte des escartons, et ça existe toujours, ce document?
Après la Révolution française, les documents ont été gardés, détruits? Non, ils sont... Puisqu'elle a réussi à...
La charte, elle existe toujours?
Oui, elle existe. Elle est conservée à la mairie de Briançon.
D'accord.
Elle est aussi exposée au public, on peut aller la voir.
Ah bah si vous passez par Briançon, moi le premier, la prochaine fois on ira voir la charte des escartons. Un dernier point quasiment à aborder, c'est les liens avec la religion dans ces escartons. Est-ce que ces personnes qui étaient un peu, comment dire, franc-tireurs, est-ce que... Il y avait la même chose au point de vue de la religion, ou est-ce que c'était des catholiques bontains?
D'accord. Donc, à l'origine, le territoire était chrétien et catholique. Les origines du christianisme dans nos vallées remontent probablement au passage des troupes romaines, puis les marchands et les voyageurs jouèrent le rôle de messagers habiles. Des chrétiens figurent aussi parmi certains soldats romains. Une très dévotion est encore réservée aux soldats de la région Thébain. On pense à Saint-Laurent, Saint-Cheafredo, Saint-Magne, Saint-Hippolyte, auxquels sont dédiées des églises, des chapelles et des fresques réalisées sur des piliers votifs. La première date certaine de l'événement du christianisme dans ces montagnes est le 30 janvier 1626, lorsque Abbone, le gouverneur de Susa et du Morient, fonda l'abbaye de Saint-Apôtre Pierre et André à Novalesa. De nombreuses donations destinées aux moines et aux pauvres qui l'auraient assisté vinrent à la nouvelle abbaye. À l'invasion des Sarrasins en 1906 correspondait le déclin de l'abbaye de la Novalesa. L'abbaye donc fut pillée et détruite, et même si elle refleurit ensuite, elle ne retrouva plus son ancienne splendeur parce que s'imposa la prévôture d'Ours. Mais à partir du XIIe siècle, il fut des siècles terribles pour l'Église. Dans un climat d'anticatholicisme fort dû à la perte de moralité du pape et des évêques, on assista à la naissance de nombreux mouvements religieux. Parmi eux, il y avait les vaudois. Ce mouvement religieux, répandu dans toutes les régions de l'Europe continentale, fut actif pendant tout le Moyen-Âge, mais les Alpes côtières, tant sur le versant français que sur le versant piémontaise, constituèrent un territoire particulièrement intéressant, parce qu'ici sa présence fut constante du début du XIIIe siècle au XVIe siècle, quand il adhéra à la réforme luthérienne. La diffusion rapide du mouvement fut probablement liée à l'isolation et à la distance de ses vallées des centres épiscopaux de Turin et d'Embrun. Au début, le mouvement vaudois ne fut pas un schisme vécu en marge de l'Église catholique. Il fut considéré comme une hérésie lorsqu'il devint un mouvement de masse. Les répressions, les procès, les condamnations à partir du XIIe siècle ne réussirent pas à effacer le vaudisme de nos vallées. Sa force reposait sur son enracinement familial fort et sur sa forte conscience d'identité toujours vivant grâce au travail constant des barbats, les prédicateurs.
Mais est-ce que le territoire des Vaudois se calque exactement sur les escartons?
Sur les escartons, il était soit dans les escartons français, soit dans les escartons piémontaises. Et puis, après Gelato, il y avait les Huguenots après la réforme luthérienne. Donc, les Vaudois en Italie, ils sont placés historiquement dans les vallées vaudois qui n'appartenaient pas aux escartons. Ils sont la Valle Pellice, la Valle Germanasca, par exemple, à côté de la Valle Chisone où il y avait les Huguenots jusqu'à Perros Argentina, au Bec de Fond,
d'accord,
à peu près.
D'accord. Ouais.
Et on doit dire que la contre-réforme entraîna le début dans ces vallées de véritables guerres de religion, conditionnées par les vicissitudes politiques entre la France et les ducs de la Maison de Savoie, dont les séquelles se répercutèrent non seulement sur la vie religieuse, mais aussi sur la vie civile. D'abord par l'édit de Nantes qui accordait la liberté du culte aux protestants et ensuite par la révocation de cet édit avec l'édit de Fontainebleau. Les protestants du Novalais furent obligés de s'enfuir vers l'Europe du Nord où furent emprisonnés. Ceux qui ont échappé aux violentes persécutions se réfugièrent en Suisse et en Allemagne, d'où ils seraient retournés en 1699 avec une expédition spectaculaire et courageuse, presque légendaire, et qui a été baptisée la Glorieuse Rentrée, 11 jours de marche sous la direction du pasteur Henri Arnaud. Ce n'est qu'au mois de février de 1848 que le peuple vaudois obtint du roi Carlo Alberto la reconnaissance des droits civils et la liberté du culte. Depuis lors, les catholiques et les vaudois vivent en paix, une paix témoignée par la fête du 17 février. Des feux sont allumés dans les vallées pour rappeler les feux allumés la nuit de 1848 pour communiquer au village que le décret avait été signé.
Avait été signé, oui. À partir de ce moment-là, ils ont pu circuler librement.
Oui.
Alors, pour conclure, il nous reste une grosse minute. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui des escartons? Est-ce que tout est parti au traité d'Utrecht ou est-ce qu'on peut retrouver des traces dans les comportements, dans la vie de tous les jours?
Oui, je crois que les vallées des escartons, malgré les langues officielles, donc l'italien et le français, ont gardé une identité culturelle forte, où les différentes traditions linguistiques ont survécu et jouissent aujourd'hui d'une protection de plus en plus forte et d'un intérêt culturel répandu. Donc, dans ce secteur des Alpes, les multiples événements qui ont eu lieu au fil des siècles, comme le passage des peuples, les échanges de traditions et de connaissances, ont permis la naissance d'une organisation communautaire et d'une culture matérielle et religieuse particulière et structurée, unique en deçà et au-delà des Alpes. Dans le passé, les montagnes qui marquent aujourd'hui la frontière entre les États ont été non pas des barrières, on l'a dit, mais des points de repère et des voies de communication entre les vallées, une charnière qui a permis la rencontre et la liaison entre les gens, les lieux et les parcours culturels et existentiels. Donc, des architectes, des peintres itinérants, des artisans, des voyageurs, des prédicateurs et des pèlerins ont traversé les Alpes, du Queyras à la Belle Varaita, du Brancenet au Valais d'Ulse et du Pragelato avec leur bagage de connaissances, en devenant ainsi les témoins et les moyens d'une union entre les peuples et les cultures.
Ce que je crois, c'est qu'on peut conseiller à tout le monde, tous les Français qui allons, en passant par le tunnel du Fréjus, au lieu de prendre le Val de Souze, on tourne à droite, on prend Cesena Torinese, on monte à Sestrières et on descend sur Pragelato, voir les musées, et puis s'imprégner un peu de la géographie locale. On va en rester là parce que nous avons terminé. Et on te remercie, Maria Anna, de tous ces éclairages.
Merci, très intéressant à refaire.
On va pouvoir le refaire peut-être.
Merci à vous.
Voilà, donc on se quitte donc sur Couleur FM 97.1 avec Mademoiselle Bertolino. Et à la semaine prochaine, non, mais à l'émission prochaine, au mois prochain, pour d'autres aventures, d'autres sujets, quoique, on verra. Voilà, bonne soirée à tous.
Au revoir.
Merci.
Et merci, Mariana.
Merci à Mariana, effectivement.
Merci de tout corps.
À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition,
chansons et gastronomie.